1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107 FM.
Et vous êtes bien sur le 107 sur Radio Barthas pour bienvenue dans l'émission 1, 2, 3 climat. Et donc ce soir, eh ben, équipe habituelle. Alors bonjour Yannick.
Salut.
Ouais. J'espère que le mois s'est bien passé. Thomas.
Bonjour Philippe.
Ouais. Salut Manu.
Salut tout le monde. Oui.
Et ce soir, nous avons donc trois invités. Donc Thérèse.
Bonsoir.
Bonjour Thérèse, voilà. Valérie.
Bonsoir.
Et Anne-Claire.
Bonsoir.
Alors, le thème de notre émission ce soir, c'est la mobilité ou les mobilités, je ne sais pas comment on dit, la mobilité douce. Voilà, donc vous allez voir, on va aborder plein de sujets. Et donc, allons-y, c'est parti.
Climat constat.
Donc c'est à moi Yannick de commencer ce soir sur l'impact carbone des transports de manière générale, mais je ne vais pas enfoncer trop des portes ouvertes, hein. C'est d'abord servez-vous de vos jambes,
oui,
c'est le sûr. Premier système c'est zéro impact carbone, c'est d'abord les jambes.
Peut-être usure des chaussures quand même, aussi, il faudrait voir ça de près.
Il faut les produire les chaussures, mais sur la mobilité, en fait on a l'État français qui dit que l'empreinte carbone des transports se décompose, alors je vais vous donner quelques chiffres, 53% pour les voitures particulières, 27% pour les poids lourds, 15% pour les véhicules utilitaires légers, donc tout ce qui est petite livraison, 3% pour l'aérien et 2% pour les autres modes de transport, les deux roues, le ferroviaire et le maritime. Ça, c'est les grands chiffres. Mais globalement, après, on a plein d'autres chiffres, hein, vous pouvez toujours. Mais si on regarde un peu un classement sur l'émission d'équivalent CO2 pour 10 km parcourus, le plus faible, c'est le métro. On est à 0,03 kg de CO2 pour 10 km. Ouais. Mais parce qu'il faut le déplacer. Ah, ça prend les coûts de construction.
Oui.
Ensuite, on va remonter un peu. Vous avez la voiture électrique, c'est 1 kg. Parce qu'il faut la produire, la voiture électrique, il faut produire de l'électricité.
Oui.
Derrière, vous avez le bus, c'est 1,1, donc c'est comme une voiture électrique. La voiture thermique, elle est à 2,2. Et ensuite, un gros pas en avant, vous avez l'avion qui est à 2,3.
Bon, on s'en doutait un peu.
Un peu. Et le pire de tout, c'est le bateau de croisière, c'est 5 kg pour 10 km parcourus.
Ah, tu veux dire les gros bateaux,
les bateaux de croisière classiques.
Marseille, 4000 personnes et tout ça.
Et c'est encore pas les gros gros. Les gros, c'est le double. Les derniers qui sortent en ce moment, c'est deux fois plus. Une petite idée quand même pour l'avion, parce que c'est classiquement reconnu comme le plus polluant ou le plus émetteur de carbone. Un aller-retour Paris-New York, c'est 2,6 tonnes de carbone par passager.
Par passager, oui.
Par passager. Après, pour avoir un peu des idées, hein. Faire un aller-retour Marseille-Ajaccio en ferry, c'est 50 kg de carbone par passager. En avion, c'est 146. Un paquebot de croisière de taille moyenne, c'est 150 tonnes de carburant par jour. C'est pour ça que c'est polluant à ce niveau-là. Ouais. Et le pire, c'est leur pollution qui est l'oxyde de soufre. Mais aujourd'hui, on n'en parlera pas. C'est le double de la voiture. Le double ou le triple de la bagnole. Là, les derniers chiffres qu'on a, c'est juste pour rire un peu jaune, hein, pour aujourd'hui.
Ouais.
C'est le yacht de Bernard Arnault. Il émet 16 000 tonnes de carbone par an parce qu'il consomme plus de 2 628 litres par heure de compte dès qu'il démarre. Et bon, pour finir... Oxfam, qui vient de publier une association internationale, elle vient de publier son rapport sur les émissions de CO2. C'est 1% des plus riches de la planète sont responsables de 16% des émissions mondiales de CO2. Ça veut dire que 77 millions de personnes polluent autant que 5 milliards de personnes.
Bon.
C'est justement intéressant.
Alors j'enchaîne, alors moi vous m'avez filé la comparaison des différentes motorisations et je voulais vous dire merci.
De rien,
c'est un plaisir.
C'était, au début en fait je me suis dit que c'était super simple, sauf que plus j'ai creusé et moins ça l'était. Je pensais comparer juste le moteur électrique au moteur à combustion, en fait c'est pas du tout ça, hein. Il y a la puissance et la consommation, les émissions de CO2 en sortie, toute la durée de vie, enfin les émissions de CO2 sur la durée de vie du véhicule, donc production jusqu'à son recyclage. Donc c'est difficile de trouver une bonne méthode pour comparer. Du coup, j'ai voulu commencer à m'inscrire à un CAP mécanique pour écrire la chronique, mais il n'y avait pas de formation accélérée sur le sujet, donc j'ai pris une liberté avec la chronique. Je vais pas comparer les motorisations, je vais comparer l'évolution de nos véhicules. En 50 ans, en fait, la voiture, elle a pris du poids. Elle a pris du poids dans la place qu'elle occupe dans nos vies, mais aussi littéralement. À raison de 10 kilos par an, nos voitures ont pris 500 kilos en l'espace de 50 ans. À chaque fois, on prétexte plus de confort, de sécurité, d'écologie. C'est un sacerdoce chez les constructeurs. Les nouveaux modèles, ils sont plus économiques, plus écologiques, plus puissants, plus pratiques, plus intelligents. En gros, nos véhicules, maintenant, ils sont plus. Le Graal, c'est évidemment la motorisation électrique qui, elle, est carrément plus. Plus de particules fines, plus de bruit, plus d'odeur, plus de vibrations, bientôt plus de chauffeurs. J'ai personnellement hâte de voir ma voiture partir au boulot sans moi et de devoir expliquer à mon employeur pourquoi je suis en retard.
D'accord.
Encore mieux si tu vis en ville, ta voiture part devant toute seule pour t'attendre à ta place dans les bouchons et elle te prévient quand tu peux la rejoindre à pied.
Oui, elle fait les courses et etc.
Voilà,
etc.
C'est ça.
C'est quand même pas mal.
Bref, je reviens à nos chevaux fiscaux. Donc la petite comparaison des véhicules des 50 dernières années, à chaque fois je vous ai pris le modèle le plus vendu en France. Donc en 1970, c'était la Peugeot 204 qui faisait 850 kg à l'époque, qui consommait presque 10 litres au 100, qui avait une puissance de 43 kW. Alors j'ai pris puissance moteur, c'est plus facile pour comparer avec des véhicules électriques, vous verrez. Et en termes d'émissions de CO2, on était à 224 grammes par kilomètre. Ensuite, en 90, c'est toujours Peugeot avec la 205, qui la voiture la plus vendue. Elle faisait 880 kg, donc elle avait gagné 30 kg en l'espace de 20 ans. Donc vous voyez, on est sur les chiffres que je vous donne. Hein. 7 litres au 100, elle consommait 44 kW de puissance et 117 grammes de CO2 par kilomètre. Donc on avait divisé par deux à ce moment-là déjà la pollution. En 2023, c'est toujours un petit SUV de chez Peugeot qui s'est vendu le plus. Peugeot 2008, il fait maintenant 1270 kg. Il consomme presque 6 litres au 100. Il a une puissance de 75 kW sur la plus petite motorisation et il produit 109 grammes de CO2 par kilomètre. Donc on n'a pas énormément progressé finalement depuis les années 90 là-dessus. Et après, voiture électrique. Donc là, je vous ai pris les plus vendus 2023, c'est évidemment une Tesla. Ici, on est à 1884 kilos sur le poids du modèle.
C'est de la grosse voiture alors. Là.
C'est énorme. En termes de puissance, on est à 202 kilowatts. Donc on est beaucoup plus puissant que sur tous les autres modèles thermiques que je vous ai présentés. On consomme, alors là, en termes de consommation, ça ne veut rien dire parce que c'est 13,5 kW pour 100 km.
Donc voilà. Ça nous parle tout de suite.
C'est pas. Tu ne sais pas combien tu mets de kilowatts quand tu le branches chez toi. Oui. Par contre, 0 g de CO2 par kilomètre sur l'utilisation, évidemment, la production, et c'est beaucoup plus. Et après, on a la Renault Zoe, qui était la voiture la plus vendue en 2015. Donc elle fait 1500 kg quand même aussi. 79 kW de puissance, on est un peu plus raisonnable sur les puissances. Et 15,7 kW pour 100 km de consommation, donc elle consomme plus qu'une Tesla finalement. Voilà, à noter, alors j'ai repris, c'est ce que tu disais dans ta chronique, hein, mais finalement, en gros, la durée de vie, sur la durée de vie globale d'un véhicule, une voiture électrique, on considère qu'elle consomme deux fois moins qu'une voiture classique. Vous prenez un SUV électrique, c'est deux fois moins que le SUV classique, mais le mieux, c'est d'avoir une toute petite voiture. Donc selon la comparaison, on arrive effectivement à polluer deux fois moins la planète avec des véhicules près de deux fois plus puissants, deux fois plus lourds qu'il y a 50 ans. Imaginez ce qu'on aurait pu épargner de pollution en concentrant nos efforts à améliorer les performances énergétiques de nos véhicules tout en veillant à ne pas les alourdir. À titre d'exemple, savez-vous que la X avait été pensée avec pour objectif de consommer le moins possible. C'était d'ailleurs le centre de leur campagne de communication, un énorme panneau d'affichage avec juste écrit 3,9 litres au 100. C'était la campagne de com de Citroën. Et c'était une des voitures les plus légères jamais produites. Voilà, donc maintenant vous êtes bien avancé pour choisir votre prochaine voiture. En fait, avant de choisir la motorisation, votre budget, le nombre de places assises, le secret, c'est surtout de bien vous poser la question de l'usage. La fréquence d'utilisation, le nombre de passagers fréquents ou quotidiens, les trajets les plus courants que vous faites sont les critères les plus importants pour choisir le bon moyen de locomotion. C'est d'autant plus important que sur une voiture électrique, chaque tranche de 100 kg ajoute en moyenne 3000 euros au prix d'achat.
C'est juste avant. Eh bien, parlons batterie alors, puisqu'on a parlé voiture électrique. Voilà.
Eh bien, parlons batterie, effectivement, c'est un bon sujet, parce qu'en fait, comme on a parlé du poids, je ne m'entends pas, là, je ne sais pas si on m'entend, en fait.
Oui.
Donc, j'ai un petit trou.
Oui. On a parlé, donc, effectivement, du poids des voitures, qui est important, hein, parce que plus c'est lourd, plus il faut d'énergie pour déplacer.
Et plus c'est lourd, et en fait, pourquoi plus c'est lourd? Et en fait, ça peut s'expliquer pour les voitures électriques par le poids de la batterie. Donc en fait, la décarbonation de l'économie et plus spécialement des transports fait que le stockage de l'énergie est devenu un défi mondial absolument majeur. La batterie est ainsi une pièce maîtresse des véhicules électriques et qui doit concilier la puissance, la légèreté et l'autonomie. Si on doit l'invention de la batterie au plomb à Gaston planté en 1859, c'est Akira Yoshino qui a inventé et breveté la batterie lithium-ion en 1985. C'est relativement récent. Et c'est aujourd'hui ce type de batterie qui équipe toutes les voitures électriques. Alors, il faut savoir que les batteries lithium-ion utilisent des métaux critiques qui sont le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, etc. On dit qu'ils sont critiques au sens où leur disponibilité sur Terre est assez problématique. Les terres rares, elles, ne sont présentes que dans les batteries nickel hydrométalliques, mais par contre, elles sont utilisées dans pratiquement tous les moteurs électriques en raison de leurs propriétés d'aimant permanent. Alors, maintenant, quand on parle véhicule électrique, et on l'a entendu tout à l'heure, finalement, on parle de kilowattheure. Et on ne parle plus de consommation en litres par kilomètre, mais de kilowattheure par kilomètre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire une capacité de stockage de 1 kWh, il faut à peu près 110 g de lithium, ce qui a l'air assez ridicule. Mais pour faire 110 g de lithium, il nous faut à peu près 10 kg de granit qui est extrait en Australie. Bon, il n'y a pas que le granit, hein, on peut aussi extraire le lithium dans des eaux saumâtres en Amérique du Sud. Mais voilà, il faut du lithium. Une batterie pour un vélo électrique, c'est 300 g de lithium. Une Zoé, c'est 8 kg de lithium. Un camion, 70 kg de lithium. Enfin, donc tout dépend de la motorisation que l'on souhaite avoir. Par contre, dans tous les cas, plus la puissance est importante, plus la capacité de stockage est importante, plus la consommation de métaux critiques sera importante. À titre d'exemple, une batterie pour un SUV, une batterie de 100 kWh, va mobiliser 5 fois plus de lithium, de nickel, de cobalt, de manganèse et de graphite qu'une batterie de 20 kWh qui est mobilisée pour une petite citadine qui a une autonomie de 100 km. Il y a donc des choix à faire. Alors, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande mondiale de lithium pour les véhicules électriques pourrait être multipliée par 14 en 25 ans. Celle du cuivre par 10, celle du cobalt par 3,5. Ce qui veut dire que là, on va avoir un petit souci à gérer. Donc finalement, on choisit de changer d'air et de passer de l'air du carbone à l'air des métaux. Mais est-ce que nous serons en mesure de gérer la pénurie lorsque celle-ci interviendra autour de 2050, comme le prédisent certaines agences expertes? Par ailleurs, l'extraction, le raffinage des métaux qui sont nécessaires à la construction des batteries sont des activités qui sont d'une part hautement stratégiques, évidemment, parce que qui maîtrise la production de nickel et de lithium maîtrise finalement la motorisation des véhicules et donc une grosse part de l'économie. Mais ça génère aussi des impacts environnementaux et sociaux, mais lesquels sont variables selon les localisations des sites d'exploitation. Par exemple, pour produire 1 kg de cuivre, il faut entre 130 et 270 litres d'eau. Pour produire 1 kg de nickel, entre 100 et 1700 litres d'eau. Pour produire 1 kg de lithium, 2000 litres d'eau. Donc finalement, il faut choisir entre boire et rouler.
Tout va bien.
L'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo, qui représente à peu près 80% de la production mondiale de cobalt, pose des gros problèmes, bien sûr sociaux, environnementaux, mais aussi géostratégiques, à tel point que le gouvernement congolais aujourd'hui dénonce les accords qui ont été passés sous l'ère Kabila, parce que les entreprises chinoises sont dans une position de néocolonialisme qui dérange véritablement les Africains. Alors, en ce qui concerne la France, la stratégie, on a une stratégie pour les batteries à horizon 2030, très ambitieuse, hein, qui comporte un volet recherche pour des technologies innovantes, notamment la batterie lithium, sodium-ion, la batterie solide. Un gros projet d'extraction minière dans l'Allier, qui est très significatif. Un projet de raffinage du minerai en Alsace. Un déploiement dans le Nord de 4 gigafactories pour une production de plus de 100 gigawatt-heure. Et le recyclage des batteries usagées. À titre de comparaison, aujourd'hui, on est à peu près production mondiale à 140 gigawatt-heure pour les batteries. Deux astuces pour augmenter la durée de vie de la batterie, avant de clore cette chronique provisoirement. Oui. Premièrement, privilégier une charge normale à une charge rapide, parce que plus la charge est lente, moins la batterie chauffe et moins elle s'use. Et puis, accessoirement, c'est plus facile de gérer des pics de consommation lorsqu'ils sont lissés que lorsqu'ils sont tout le monde se branche en même temps pour aller en 5 minutes recharger à bloc sa batterie. Si tout le monde faisait ça, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir 2 EPR de plus, rien que pour charger les batteries.
Bon. On va éviter alors. Chargeons.
On ne sait toujours pas les faire marcher, plus, les EPR. Oui. Donc.
Voilà. Et puis, bon.
Eh bien, un deuxième conseil, si vous avez une voiture électrique, c'est que plutôt que de la laisser à l'arrêt dans votre garage, parce que pendant ce temps-là, la batterie se décharge et elle risque de vieillir plus vite, il faut la faire tourner. Voilà, il faut la faire tourner. Et pour la faire tourner, ben, finalement, on pourrait se questionner sur l'utilisation individuelle de la voiture plutôt que sur un véhicule partagé qui, lui, du coup, serait toujours en circulation,
toujours en mouvement,
avec une durée de vie de batterie qui serait donc accrue. Merci.
Eh bien, merci Manu. Quelques réactions sur toutes ces chroniques. On voit bien quand même la sobriété est au cœur du problème. Hein. On écoute un peu de musique alors.
Qui rêve encore de l'Amérique, ce shopping mall pas démocratique, tout est si différent maintenant, mais qui peut encore rêver tout court, quand tout est flippant aux alentours, tout est si différent maintenant. En attendant bien patiemment la fin du monde, quelle liberté d'être condamné après ces années de culpabilité, agissons enfin sans conséquence, salut patron, on se verra en vacances. Différent maintenant, en attendant bien patiemment la fin du monde. Tout est si différent maintenant, en attendant bien patiemment. On finira au musée dans un décor, et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre, et qui attend bien patiemment la fin de son air.
Eh bien, nous allons passer à la rubrique invité. Donc aujourd'hui, on accueille trois personnes, donc une utilisatrice de vélo. Alors, rebonjour Thérèse.
Rebonjour.
Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te motive en vélo, pourquoi tu prends ton vélo, pas ta voiture, combien tu fais de kilomètres, voilà. On va essayer de parler un peu des difficultés ou du plaisir de rouler en vélo autour de Florac ou dans Florac.
La première motivation, c'est bon pour la santé.
Oui, c'est vrai.
C'est bon pour le climat. Et ça permet de mieux voir les paysages. Et ici, en Lozère, c'est vraiment agréable. Je fais du vélo depuis 15 ans. J'ai commencé autrefois quand j'habitais dans le Nord. La chose principale, c'est vraiment de choisir le véhicule ou le moyen de transport qu'on va avoir à son activité. C'est-à-dire que si je m'en vais faire des grosses courses à Hyper-U à Mende, je ne prendrai pas mon vélo. Je prendrai plutôt ma voiture. En revanche, quand je dois me déplacer pour différentes réunions, j'habite à Quézac, alors je vais régulièrement à Saint-Enimi ou à Florac pour des réunions ou à Hispaniac. Là, j'essaye de prendre mon vélo. Le temps a une influence aussi sur le fait que je le prenne ou pas, parce que quand il pleut des trompes d'eau, c'est pas très agréable.
On comprend que ce soit plus compliqué.
Voilà, ouais. mais en même temps, quand on est bien équipé, c'est... S'il y a une pluie normale, ça va. Oui. Quoi. Il faut juste être bien équipé, aussi bien pour le froid que pour la pluie.
Oui, parce que Quézac-Saint-Enimi, ça fait quand même 20 km.
17.
17, ouais.
Oui.
Et donc, tu mets combien de temps alors avec ton vélo ?
Une petite heure. Alors ça aussi, c'est vrai, tu as raison, c'est important. Ça dépend aussi de l'emploi du temps. Parfois, je n'ai pas le temps de prendre une heure pour aller à Saint-Enimi, mais j'essaye
de l'intégrer, justement.
Voilà, l'emploi du temps. Et j'essaye de prioriser mon vélo, parce que vraiment, c'est chouette, quoi.
Alors, peut-être autour de la table, il y a d'autres usagers du vélo, hein, donc vous pouvez prendre la parole aussi. Hein. Alors, moi, ma question, puisque je roule un peu en vélo aussi quand même, ma question c'est, alors comment ça se passe avec les autres usagers de la route, qui sont principalement quand même les voitures ?
Pas toujours très bien, surtout sur la Nationale 106. Entre Faux et Florac.
Donc là, quand tu viens sur Florac,
Entre Faux et Florac, c'est vraiment pas évident. Oui. Alors, je dirais que le plus dangereux, c'est peut-être les camping-cars en été.
Oui, parce qu'ils sont gros. Et
ils sont gros, ils n'ont pas l'habitude de conduire leur engin. Et c'est pas toujours simple pour nous. Et puis, le problème de la Nationale 106, c'est un problème géographique. C'est-à-dire que on n'a pas possibilité, je pense, de l'aménager pour les cyclistes partout. Il y a des endroits où elle est suffisamment large, on pourrait l'aménager, mais ça n'est pas le cas partout. Et il y a des endroits où elle est vraiment très étroite. Et
peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure de ce potentiel aménagement.
Et donc, les voitures souvent nous frôlent et c'est pas simple.
Est-ce que tu utilises ton vélo la nuit, par exemple ?
Non. Non. Enfin, pas ici, en tout cas. Pas pour venir à Florac. Là, comme aujourd'hui, je suis venue en voiture parce que dans le noir, je ne suis pas du tout en sécurité.
Oui.
Après, pour rebondir sur la 106, c'est le partage des usagers de la route, mais comme le partage de l'espace par tous les usagers divers et variés. On s'est rendu compte, historiquement, qu'en ville, finalement, ils ont fait des voies cyclables. Maintenant, ils remettent ensemble les choses, et ça pose plein de problèmes avec les sens uniques, pas les sens uniques. On met les vélos qui ont le droit d'aller dans tous les sens et pas les autres véhicules, ce qui pose de vrais problèmes. Mais du coup, localement,
moi, ne pas, j'utilise pas le vélo justement parce que j'ai une majorité de 106 pour circuler entre mon logement et mon travail. Mais c'est, est-ce que de réfléchir à le sortir justement de la 106 et qu'on circule par ailleurs, il y a potentiellement d'autres solutions.
Sur un autre itinéraire.
Un autre itinéraire.
Oui, en passant par Bièce, par exemple. Il y a une petite route qui est assez sécurisée, mais il y a un tronçon qui est encore en caillou qu'il faudrait aménager.
Et qui est un chemin, en fait, qui monte et qui descend. Oui.
Ouais, et en fait, c'est ça aussi, c'est que le dénivelé est quand même assez important. Donc là, vélo électrique quasiment obligatoire.
Ouais, toi, c'est un vélo pas électrique.
Si. Oui. Vu mon grand âge.
Et si tu n'avais pas l'assistance électrique, du coup, tu circulerais moins en vélo ou...
Même pas du tout.
Pas du tout, d'accord.
Non, c'est une question d'âge. Hein. J'ai plus 20 ans, donc je crois que quand on a 20 ou 30 ans, ce n'est pas un souci. Mais là, maintenant... Je pourrais plus.
Non, mais... Même 20 ou 30 ans pour des circulations quotidiennes ou très régulières, c'est impossible de le faire en monde rural, en urbain. Moi, pour l'avoir fait essentiellement en urbain dans une ville extrêmement plate, même la plus plate de France, c'était possible, en étant jeune, plus jeune.
Pourquoi ?
Mais actuellement, en monde rural, sans vélo électrique, en fait, le vélo, c'est impossible. C'est impossible. Oui. C'est très compliqué pour les trajets quotidiens.
Surtout ici, où c'est vrai qu'il y a facilement du dénivelé. Même, en voiture, on ne s'en rend pas compte, hein, parce que, on appuie un peu, puis hop, on est en haut de la côte. Mais on a tout de suite du dénivelé cumulé, qui fait qu'il faut effectivement un petit peu d'entraînement. Mais après, des jeunes de 20-30 ans qui se remettent au vélo, normalement, voilà. Ça doit le faire.
J'y crois pas une seconde.
Ah bon, bon. D'accord. Et oui, donc la nuit, c'est beaucoup plus compliqué.
Ah mais non, je m'y risque pas.
Oui. Pourtant, maintenant, il y a des éclairages assez performants pour les vélos hein, qui signalent, mais c'est vrai que c'est plus délicat. C'est marrant parce que moi, je me disais que sur la 106... du coup j'ai moins peur sur la 106 parce que c'est plus large, on peut plus facilement se mettre sur le côté que sur les routes par exemple qui vont au pont de Montvert que sur les petites routes, mais on n'a pas la même perception. Donc
il y a moins de circulation moins sur de circulation, les petites routes,
c'est vrai.
Il
n'y a pas de camping-car ou peu
sur la route du pont de Montvert, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore exploré, on va dire, mais dans les gorges pour aller à Saint-Enimy, il y a des endroits, c'est pas large non plus, mais il y a beaucoup 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 moins de circulation et les voitures roulent moins vite.
Est-ce que tu as une tenue particulière pour faire du vélo? Parce que malgré tout, en ce moment, on est quand même en automne, donc il faut...
Oh, il faut s'habiller chaudement. Les trois points sensibles, c'est la tête, les mains et les pieds. Et à partir du moment où on est bien couvert à ce niveau-là, ça passe. Enfin, il ne faut pas qu'il fasse moins 10 non plus.
Oui, il ne faut pas non plus qu'il y ait du gel sur la route, parce que là, ça commence à devenir un peu compliqué.
C'est ça, oui.
Après, c'est intéressant ce que tu viens d'évoquer, parce qu'en fait, on voit que la problématique, c'est surtout l'infrastructure. Hein. C'est, dès qu'on ne se sent pas en sécurité pour l'usage du vélo ou quoi que ce soit, on ne l'utilise pas.
Ça limite, oui.
Parce que peut-être que tu pourrais utiliser ton vélo la nuit si tu étais sur une piste dédiée à l'utiliser. Enfin, c'est toujours
absolument.
Pareil, en fait.
Absolument.
On est toujours sur l'infrastructure qui génère aussi l'usage. C'est par là qu'on doit commencer. Oui. Quoi.
Qui facilite l'usage, c'est sûr. Mmh.
Et c'est aussi l'offre qui fait que les gens vont se remettre au vélo ou pas. Quoi. Mmh. S'ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne vont pas s'y mettre.
C'est ça, c'est un premier frein. On pourrait vouloir faire l'effort, ou même juste pour sa santé, pour les raisons que tu as données tout à l'heure, vouloir se mettre au vélo pour aller au boulot, parce qu'on ne fait pas les courses tous les jours et qu'on se déplace seul la plupart du temps en voiture. Mais si on se dit, chez moi, j'habite à Ruas, la route pour descendre jusqu'à Cocurès, il y a énormément, très peu de visibilité à certains endroits, ça en devient extrêmement dangereux, mais même en voiture déjà, donc je ne vais pas m'aventurer en vélo sur ces pistes-là.
Et en ce qui concerne la circulation dans Florac, c'est quoi ton retour d'expérience ?
Pour moi, ça va. J'ai habité dans une grande ville longtemps, donc j'ai l'habitude de gérer avec les voitures. Donc, j'ai pas de soucis particuliers à l'intérieur de Florac.
Et juste une dernière question, donc par rapport à l'entretien et tout ça, y a beaucoup, ça implique beaucoup d'entretien, un vélo, ton vélo par exemple, tu crèves sur la route
Moi ça m'est jamais arrivé, bon. Dieu merci.
Oui.
Ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas
oui,
dire...
D'accord, mais et sinon pour le reste, il y a...
Non, c'est... Ça. De temps en temps, je vais chez le marchand de vélo, il me fait une petite révision et puis voilà.
Un petit coup d'huile sur la chaîne
et c'est bon.
Et voilà.
Oui, il me regarde pas l'animateur, le technicien. Non, c'était juste une information. C'est maintenant, il y a des fonds publics d'aide pour ceux qui vont en vélo travailler. Pour l'entretien annuel, il y a un chèque. Alors, je sais pas de combien c'est puisque moi, j'utilise pas de vélo.
L'achat.
Oui. Et l'achat. Et ensuite, il y a un entretien. Pour l'entretien aussi. Et maintenant, les structures peuvent financer les mobilités douces avec un chèque divers en fonction du nombre de jours où vous l'utilisez.
Oui. Mais tu vas voir, on va avoir ça plein d'infos tout à l'heure.
J'ai anticipé, pardon.
Bon, merci Thérèse, en tout cas. Tu restes avec nous et si tu veux intervenir sur...
Je vous en prie.
Sur les autres sujets, il n'y a aucun problème.
Merci.
Alors, nous allons donner la parole à Anne-Claire. Donc, voilà. Bah, déjà, dis-nous quelques mots. Pourquoi tu es là? Pour qui tu travailles?
Alors, pourquoi je suis là? Parce qu'on m'a gentiment invitée.
Oui. Merci d'être venue.
Merci beaucoup.
Merci d'être venue, d'ailleurs.
Pour cette invitation. Donc, moi, je suis agent au sein de la mairie de Florac Trois-Rivières. Et j'ai plusieurs casquettes au sein de la mairie. Mais voilà, il y en a une qui consiste à faire du suivi de projets. Et voilà, c'est pour ça que je me suis, entre autres, et avec d'autres, occupée du suivi de projet sur l'avenue Jean Monestier, qui est un projet d'actualité sur la commune.
C'est pour ça qu'on t'a demandé de venir, pour faire le point là-dessus. Déjà, peut-être reprendre le projet un peu à son origine. Pourquoi la mairie de Florac s'est lancée dans ce projet, justement? Alors, je voulais juste ajouter, avant de te redonner la parole, c'est que normalement, il devait y avoir un élu de la commune qui t'accompagne. Mais il y a conseil municipal ce soir.
Tout à fait, donc, plein conseil actuellement. Voilà.
Tu es toute seule.
Donc je suis déléguée.
Déléguée, tu as un mandat.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce projet?
En fait, ce projet n'est pas un enfin, ça date pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été initié dans le cadre d'une grande réflexion déjà en 2016. Une grande réflexion qui visait en fait à redéfinir un projet global de territoire. Suite à un grand diagnostic qui a été mené sur tout le territoire. Et parmi les grandes orientations qui ont été définies, il y avait notamment la rénovation et la redynamisation du centre-bourg. Et parmi les actions à mener pour redynamiser ce centre-bourg, il y avait du coup la problématique de la circulation et du stationnement au centre de Florac.
Donc, ça avait été vraiment pointé donc comme un gros problème.
Exactement. Oui. Donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que l'équipe municipale en place à ce moment-là avait décidé de passer la première partie de l'avenue Jean Monestier, donc le tronçon qui va de Sipelser jusqu'à l'avenue Maurice Tour, en sens unique. Donc, ils y avaient déjà travaillé beaucoup à l'époque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce projet de territoire a été en fait défini sur un pas de temps d'une vingtaine d'années. L'idée étant que les équipes en place, en fait, initient ces projets et qu'évidemment, les mandats et les équipes municipales suivantes continuent les projets engagés. Donc, le projet... Par rapport à la rénovation, à la redynamisation du centre-bourg, fait toujours partie des priorités, évidemment, de l'équipe actuelle. Et c'est pour ça que, du coup, des commissions ont continué de travailler là-dessus. Et en fait, nous, on est intervenus en tant que techniciens, entourés d'ailleurs du PETR et de Petite Ville de Demain, pour essayer de concrétiser les études qui avaient été menées et le résultat, en fait, mettre en lumière un peu le résultat des commissions qui avaient été initiées, qui travaillaient autour de ce projet-là. Et c'est pour ça que, du coup, on a pu présenter au printemps aux élus et puis en septembre à l'ensemble de la population des scénarios qui ont été donc qui ont pu être présentés, 4 scénarios sur la réorganisation un petit peu de l'avenue, oui. Sachant que ce qui est très important, que le postulat de départ, c'était vraiment l'idée de créer un trottoir d'1m40 pour sécuriser les piétons. Ça, c'était vraiment le fil rouge, en fait.
On voilà. Se rend bien compte que dans l'état actuel des choses, pour circuler, ne serait-ce qu'à pied, des fois, il faut passer sur la chaussée. Voilà,
c'est ça. C'est-à-dire que dans la configuration actuelle, effectivement, il n'y a pas de place pour des piétons, et notamment pour des piétons aussi à mobilité réduite, des personnes âgées, des gens avec des poussettes, des enfants qu'on tient par la main. Très souvent, les piétons sont obligés de passer sur la voie parce que le stationnement est trop collé contre le mur. Et donc, c'est très compliqué aussi de se croiser quand on est aussi avec des véhicules motorisés sur l'avenue. Oui. Donc, l'idée, c'était de repenser un peu l'avenue avec ce postulat de départ d'1m40 de trottoir.
Oui, en vélo, c'est pareil, Thérèse, il faut slalomer entre les voitures.
Aussi, c'est vrai. Oui.
Mais c'est pas... Comme les véhicules roulent très lentement à l'intérieur de Florac, c'est pas un souci, quoi. Moi, ça me met pas en insécurité.
Alors effectivement, on peut penser qu'il n'y a pas eu de drame sur cette rue. On peut penser que les gens vont relativement doucement, mais c'était pas un facteur pour nous on ne pouvait pas imaginer. Enfin, l'équipe municipale ne pouvait pas imaginer laisser cette avenue dans cet état-là, parce que l'idée, c'est vraiment que le piéton puisse, les enfants puissent cheminer en toute sécurité. Tout le long.
Puis a priori, il y avait quand même des conflits d'usage sur cette avenue telle qu'elle était, puisque les gendarmes l'avaient rappelé lors de la réunion publique que vous aviez organisée, qu'il y avait des incidents régulièrement. Oui. Alors, pas des incidents, pas de blessures, mais c'est des frictions
entre usagers. De la tôle froissée.
Oui, c'est ça.
Des frictions entre usagers, oui. Tout simplement aussi.
Oui, Valérie, vas-y, te gêne pas, interviens.
Non, mais juste, moi qui la pratique aussi tous les jours avec des enfants pour aller à l'école, l'avenue Monestier, moi j'ai eu droit par contre à des incivilités de la part d'automobilistes, puisque comme on est 2 ou 3 à se suivre, les gens ils essayent systématiquement de nous doubler. C'est déjà arrivé que la voiture elle se rabatte à 2 doigts de mon fils devant et il a failli se faire écraser par la voiture parce que elle a voulu doubler alors que quelqu'un arrivait en face et du coup elle s'est rabattue en urgence et c'est passé à ras.
Là vous êtes en vélo, Valérie.
Ouais, là on est en vélo et
vous allez à l'école en vélo.
Oui, on va à l'école en vélo. Enfin des fois on y va à pied, des fois en vélo, ça dépend. Mais en tout cas moi en tant que parent je suis pas forcément en sécurité dans cette avenue tranquille. En vélo avec mes non. Alors bon, évidemment, il faut bien apprendre à l'enfant à faire du vélo sur la route, bien se caler sur la droite, etc. Mais il y a la portion autour de la bibliothèque qui est assez étroite. Et je trouve que, il y a des voitures des fois qui abusent un peu.
Il ne faut pas que les automobilistes oublient qu'ils conduisent souvent des véhicules de 2 tonnes.
C'est ça. Et quand on tourne...
Qui consomment plusieurs kilos de... j'ai oublié.
2500 litres de mazout par heure, tu me dis, c'est ça.
C'est ça. Et quand on tourne sur la gauche pour aller à l'école, il y a les voitures. Des fois, elles essayent de nous doubler en urgence pour éviter d'attendre qu'on nous... on tourne. C'est aussi arrivé une fois que la voiture, elle me double alors que j'étais en train de tourner. Hein. Donc, moi, je suis pas trop... Enfin, voilà, je me sens pas forcément en sécurité dans cette avenue avec des vélos et je pense qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir.
Oui. Donc, une fois que ce constat est fait, donc, il y a eu ensuite la méthode, en fait, pour choisir le bon scénario.
Oui, alors effectivement, nous, côté technicien, on a pu élaborer ces scénarios donc suite à plein de diagnostics, d'études qui avaient déjà été menées. Nous, on a aussi fait partie d'une méthode un peu particulière qui nous a permis d'aboutir donc sur 4 scénarios qui modifiaient donc forcément l'avenue, puisque, comme on le disait, avec ce trottoir d'1m40, on était obligé d'apporter des modifications sur l'avenue. Et donc, on a 4 scénarios qu'on a décidé de mettre en consultation auprès de la population.
Oui, je pense que on va peut-être pas revenir sur les 4 scénarios dans le détail, mais parce qu'il y a plein de gens qui ont lu les docs et qui sont allés sur le site internet ou qui ont assisté aux réunions. Du coup, maintenant on sait quel scénario? Alors, il y a eu combien de retours, en fait, de votes?
Alors, il y a eu une participation assez massive, hein, puisqu'on a eu en tout, presque 900 participants, avec 770 bulletins à peu près exprimés, retenus, parce qu'il y a eu des doublons, il y a eu des bulletins nuls. Ah. Mais donc, c'est quand même une participation massive. On est très content de cette participation-là. Et effectivement, donc, c'est le scénario numéro 4, donc, qui consiste
Là, par contre, c'est lequel?
Donc, le scénario numéro 4, qui était le scénario qui consistait à garder le double sens de circulation, mais en supprimant, du coup, tous les stationnements sur l'avenue. Donc, c'est celui-ci qui a été voté. Avec une large majorité, hein, il n'y a pas eu énorme, enfin il y a eu de bons écarts, donc il est en top 1 sans problème. Et donc maintenant l'idée c'est de s'atteler à l'aménagement de cette voirie, dans un premier temps pour une phase de test, et après on verra
La phase de test va démarrer donc pour l'été.
Alors on espère que la phase de test mise en place. Alors là on a une première réunion technique qui aura lieu lundi. Avec autour de la table les gens qui seront concernés. Il y aura des techniciens du département notamment, mais il y aura aussi des riverains, il y aura aussi des commerçants, il y aura aussi des professionnels, des structures de professionnels qui utilisent la voie, notamment l'ADMR ou les gens du SIAD qui peuvent venir, enfin qui ont besoin de
qui peuvent stationner dans la rue.
Voilà, tout à fait. Ouais, qui ont pour habitude normalement de stationner dans la rue. Et on va essayer du coup de voir ensemble ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait aussi, parce qu'on aura des contraintes forcément. Et donc l'idée c'est d'entendre aussi un petit peu les prérogatives et les craintes et de tout le monde, et de voir comment on peut arriver à mener à bien la phase de test, qui donc sera mise en place, nous l'espérons, au mois de mars. Bon, sachant qu'il y a...
C'est rapide, alors.
Alors, ouais. Voilà. Alors, c'est le calendrier prévisionnel, on va dire. Nous, on aimerait bien que la phase de test commence à cette période-là. Après, on aura peut-être des contraintes techniques, parce qu'il va falloir faire intervenir des entreprises. Est-ce qu'elles seront disponibles? Ça, c'est des points d'interrogation, mais en tous les cas, c'est notre souhait. Et puis, elle va courir jusqu'à la fin du mois d'août, sachant qu'au milieu, autour du mois de juin, il est prévu de faire une petite réunion bilan pour voir déjà dans un premier temps, en saison on va dire creuse, qu'est-ce que ça donne. Et puis il y avait une volonté donc d'étendre un petit peu cette phase de test à la période estivale pour voir aussi avec une densification des automobilistes, voir aussi ce que ça allait donner et potentiellement les impacts que ça pouvait avoir. Du coup on va la faire courir sur la saison estivale et il y aura un bilan qui sera fait à horizon de l'automne 2024.
Et si la phase de test, après la phase de test, on peut imaginer que le scénario change ou alors
Pour l'instant, on va attendre.
Je dois avouer que le scénario 4 est celui qui me séduit le moins, mais bon, ben voilà, c'est pour ça que je pose cette question.
Pour l'instant, on va attendre un petit peu de savoir justement comment techniquement ça va pouvoir se mettre en place. On va attendre d'avoir le résultat aussi, le bilan, cette phase bilan qui sera très importante pour nous. Et à ce moment-là, on envisagera de voir. Voilà. C'est une phase de test, hein, donc elle porte bien son nom. Donc ça veut dire que potentiellement, on se donne la possibilité qu'il y ait peut-être des choses qui ne fonctionnent pas. Après, voilà, est-ce que ça sera améliorer les aménagements ou se tourner vers autre chose? Ce n'est pas encore défini.
Et après la phase de test, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un vote si jamais les gens aiment, n'aiment pas, ou alors, parce que Flore avait dit que le vote allait être la décision finale et c'est génial, mais si ça marche pas et si ça plaît pas, est-ce qu'on dit on valide?
Eh bien, c'est pour l'instant, voilà, on n'est encore pas en capacité de pouvoir répondre à cette question. On va attendre de voir ce que nous dit la phase de test. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas acté ni statué. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas trop vous dire ce qui va advenir si cette phase de test n'est pas concluante.
Testons. Nous verrons bien. Alors, on écoute un peu de musique. J'aurai une dernière petite question, mais pas sur ce dossier-là, à poser à Anne-Claire quand on revient. Allez.
Thank you. ceux qui ont des chaînes et voient le disque augmenter, trouveront-ils jamais le temps de tout écouter? Et ceux qui ont des frigidaires sont-ils plus avancés que ceux qui font leur marché rien que pour une seule journée? Les abonnés du téléphone sont-ils privilégiés? Peut-être on peut communiquer autrement qu'avec ces appareils. Ceux qui possèdent la télé font-ils une sorte d'apprentissage de l'abrutissement total ou bien d'un autre moyen de transmettre les images? Et ces machines à laver la vaisselle dont-elles plus de liberté? Ou est-ce qu'elles nous entraînent pas plus dans la ronde des prisonniers? Tous ceux qui ont l'électricité sont-ils mieux éclairés que ceux qui se couchent avec le soleil et qui le regardent se lever? La bagnole, notre Dieu, va-t-elle nous transporter vers un pays merveilleux où règne l'amour et la paix? Où existe-t-il d'autres transports pour nous emmener vers la porte de sortie, vers une autre destinée? Et tous ces biens qui nous obligent à payer les frais tous les jours, notre belle nature un peu plus dénaturée. On dit qu'il n'est jamais trop tard, pourvu que ça soit vrai, car si les arbres venaient à mourir, alors qu'est-ce qu'on ferait? Et après toute cette frénésie, tant de travail acharné pour gagner l'argent nécessaire pour acheter plus, plus consommer, entendrons-nous cette voix qui nous appelle toujours? La seule voix à suivre, celle de l'amour. Jamais cessé de nous appeler en attendant que notre descente aux enfers soit terminée.
Pendant la pause musicale, on a quand même pas mal discuté sur les différents scénarios en off. Bon. Voilà. Bah oui, on espère que la phase de test va pas être très probante.
Je ne me prononcerai pas. Mais...
Oui. On a essayé de te faire parler, mais non, on n'a pas réussi.
C'est normal. Alors,
j'avais juste un dernier petit sujet.
Je me permets juste de dire que maintenant, l'idée c'est d'être constructif. Le scénario a été voté, voilà, et maintenant l'idée c'est d'œuvrer pour que ça se passe au mieux. Enfin, c'est quand même le but. Il est là. Hein.
Tout à fait. Ouais. Juste une dernière petite question, une information de ta part sur la location de vélos électriques, justement. Si tu peux nous en dire quelques mots.
Bah effectivement, la mairie met à disposition une flotte de 10 vélos électriques qui peuvent être loués au mois. Pour un tarif de 45 euros par mois ou tout pour 3 mois, pour un tarif de 120 €. Et l'idée, c'est vraiment que les gens testent ce mode de déplacement pour voir si ça leur dit d'investir après et d'acheter eux-mêmes un vélo électrique. Donc c'est vraiment l'idée avec laquelle ces vélos ont été achetés. C'est vraiment pour faciliter la prise de décision des gens sur un achat qui est quand même un achat assez conséquent et qui doit voilà un vrai investissement. Donc voilà, c'est à disposition, donc faut pas hésiter à prendre contact avec la mairie si on est intéressé. Alors je crois qu'ils sont très prisés, hein, donc n'hésitez pas.
Il y a une liste d'attente, il y a ils sont tous pris là même en hiver,
et je pense que là ils sont tous pris. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre sur la liste d'attente et voilà à contacter la
mairie.
Mais c'est aux destinations des habitants de Florac ou le...
Oui, oui, je crois que... Alors, effectivement, c'est une bonne question auquel il faudrait peut-être avoir une précision au niveau de l'accueil.
Je n'habite pas Florac et je serais intéressé.
Mais je crois que c'est aussi ouvert peut-être sur les autres, les communes alentours.
Tu n'es pas sur la commune d'Hispania qui n'a pas des vélos à Hispania?
Si.
Oui. Bon, merci Anne-Claire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc, on va passer à notre dernier invité, donc Valérie, pour le PETR. Donc, alors déjà, c'est quoi le PETR?
Le PETR ou le PETRE?
Le PETRE, ah oui, c'est...
Non, c'est PETR, mais il y en a qui disent PETRE.
Oui, oui,
l'acronyme, c'est Pôle d'équilibre territorial et rural. En fait, c'est un établissement public qui regroupe des communautés de communes. Donc ici, dans le sud-Lozère, on a 2 communautés de communes. On a Gorges-Cévennes et Cévennes-au-Mont-Lozère. Et donc les communautés de communes se regroupent pour travailler ensemble et mutualiser des moyens, surtout de l'ingénierie, pour travailler sur certaines thématiques qu'elles ne peuvent pas faire toutes seules dans leur coin. Et donc les thématiques, elles vont varier d'un PETR à l'autre. Nous ici, on mène des projets sur la gestion de la forêt, l'agriculture et l'alimentation, notamment les circuits courts pour les cantines scolaires. Et on travaille aussi sur l'accueil des nouvelles populations et la mobilité durable, mon poste. Voilà. Et en fait, le PETR aussi va accompagner les communes pour mener des projets de développement et des porteurs de projets individuels ou des petites des entreprises pour qu'elles se développent, notamment avec les fonds européens Leader. Donc moi ma mission en fait c'est la mobilité durable, c'est-à-dire essayer d'élaborer et de mettre en place une stratégie pour améliorer la mobilité des habitants. Donc ça passe notamment par mettre les différents acteurs autour de la table pour essayer d'identifier les problèmes, de trouver les vraies causes des problèmes et essayer de trouver des solutions. Alors soit elles existent, il faut essayer de les mettre en place, soit il faut les inventer. Et puis aussi, ça consiste en accompagner des porteurs de projets comme des communes, par exemple la ville de Florac, ou des associations, ou des entreprises, des individuels qui auraient des projets sur, dans mon cas, la mobilité.
Oui. Et donc, tout à l'heure, on a abordé le problème on peut le faire rapidement là, de la circulation entre les différentes communes en vélo. Donc, du coup, on a parlé de la 106, de la difficulté, mais je crois que c'est un peu compliqué. Non, on en a parlé quand on a préparé l'émission.
Tout à fait ce que vous avez dit. Oui. La 106, elle n'est pas élargissable. Hein. C'est bien trop coûteux et bien trop compliqué techniquement. L'idée, c'est d'essayer de déterminer comment on peut faire circuler les vélos. Donc, il y a effectivement un travail de réflexion entre les élus, le département, la nationale, la DIR, l'État, pour essayer de trouver des solutions pour faire circuler les gens entre Hispaniac et Florac ou Coucurès, par exemple.
Oui, ok. En plus, alors on a parlé tout à l'heure de par exemple du chemin route qui est en rive gauche entre Florac et Hispaniac.
Tout à fait.
Mais aménager ça, tout est possible évidemment, mais c'est dans les cartons peut-être.
C'est dans les cartons. Ouais. Ça va nécessiter des études, notamment de sol, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le revêtement. C'est un projet qui est dans les cartons. Le problème, c'est qui porte ce projet? Est-ce que c'est une commune? Est-ce que c'est les communes? Elles essayent de se grouper? Est-ce que c'est... Voilà. C'est assez compliqué au niveau du portage. Donc, ça, voilà, c'est pas un claquement de doigts. On va pas faire ça. Mais effectivement, c'est un projet qui est dans les cartons et qui est une volonté des élus d'améliorer le parcours des habitants, n'est-ce pas?
Oui.
Ma voisine fait oui de la tête.
Oui, Thérèse dit oui.
Oui.
Alors, on a beaucoup parlé de vélo dans l'émission, hein, ouais. Mais il y a aussi d'autres modes de transport, ouais. qui permettent de se déplacer, pas forcément en vélo, qui sont, je sais pas, à mi-chemin entre le collectif et l'individuel, mais tout ça, l'idée, c'est quand même de limiter l'utilisation de notre propre voiture, mmh. tout seul dedans. Donc, le TAD, par exemple, ouais. Alors encore un truc,
comme
le TAD, je suis sûr que vous me regardez tous comme si j'avais dit un truc.
Mais avant de passer à ça, je voulais répondre, oui. à ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, il y a des vélos aussi à Espagnac. Il y en a 3 qui sont disponibles.
Ah.
Et les vélos ici sont disponibles, donc, soit à Florac ou Espagnac, sont disponibles pour les habitants de la commune, mais aussi les gens qui travaillent dans la commune, donc qui peuvent emprunter le vélo pour faire leur domicile de travail.
Tu n'as plus d'excuses. J'ai la réponse.
Nous avons aussi des vélos à Merueis, à Hurlaparade.
D'accord.
Et ensuite, chaque bourg de la communauté de communes Cévennes au Mont-Lozère dispose aussi de 6 vélos. Donc, il y a au tout 75 vélos, 76 vélos dans tout le sud de Lozère qui sont disponibles pour les habitants ou ceux qui travaillent dans les communes en question.
Bon, et sur les 75, tu arriveras bien à en avoir un quand même.
À Espagnac, il y en a qui sont encore disponibles. Il y en a un qui est disponible, allez-y.
Allez, c'est bon.
Sinon, je vais chercher celui à Hurlaparade, mais ça va être compliqué. Ouais, si quelqu'un de la mairie d'Espagnac nous écoute, est-ce que vous pouvez réserver le vélo pour Yannick, s'il vous plaît?
Et on est un peu toujours sur les mêmes prix de location entre les différentes communes.
Oui, c'est à peu près entre 45 et 60 euros. Dans la Cévennes Mont-Lozère, c'est 60 parce qu'il passe par une plateforme de mise à disposition des vélos et du coup ils ont des coûts pour la gestion du service. Voilà, mais après voilà, c'est à peu près dans cette gamme, environ 50 euros par mois. C'est quand même assez bas par rapport à une location saisonnière dans chez un loueur de vélo où c'est le prix à la journée, quoi.
Voilà. Ouais.
Donc il faut relativiser aussi, ça reste quand même très raisonnable.
Et ben voilà, Yannick, donc c'est fait. Ouais. Alors,
alors
si on revient au TAD.
Le TAD. Alors, le TAD, c'est transport à la demande. Alors, certains le connaissent déjà sous son ancienne formule qui était en gros des taxis qui venaient chercher les gens, les emmener par exemple chez leur médecin et les ramener. Ce système n'existe plus. Maintenant, le transport à la demande, c'est une sorte de mini-ligne de bus avec des horaires et des arrêts précis. Donc, la communauté de communes Cévennes au Mont-Lozère a instauré 2 lignes. Entre Bar des Cévennes et Florac, et Cocurès et Florac, enfin Lavernède et Florac pour être plus précis.
Lavernède, oui.
Voilà, donc l'intérêt principal, c'est de rabattre ces gens-là sur la ligne Lio qui va à Alès. Bon, il faut qu'on parle aussi de ça un petit peu vite.
Oui,
rappeler qu'elle
existe.
Aussi,
Oui.
Donc le transport à la demande donc, entre Lavernède et Florac a lieu 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Le mardi, c'est principalement pour aller à la journée sur Alès. Donc, en gros, elle part à 9h et elle revient à la Vernède à 19h45 parce qu'elle est en correspondance avec le Lio. Et le jeudi, c'est pour la journée, pour aller à Alès, ou bien pour passer la matinée à Florac pour le marché. Donc, elle part à 9h05 toujours de la Vernède, mais elle rentre à la Vernède à 12h35. Donc, c'est parfait pour avoir le temps d'aller au marché, se prendre un café, quelque chose comme ça. Ou alors, aller chez le médecin.
Oui.
Bar des Cévennes, donc on est un peu sur le même système d'horaire, mais elle ne circule que le jeudi, en partant à 9h15 à Bar des Cévennes et en revenant à 12h55 à Bar des Cévennes. Et elle s'arrête à Saint-Laurent-de-Trèves.
Oui, alors, c'est peut-être un peu compliqué de retenir tous les horaires d'un
coup.
Oui,
bien sûr. Après,
mais
les horaires
on les trouve où, les horaires? Alors, j'ai entre les mains
un
beau document là qu'on peut trouver à la maison des services.
Ouais,
à
France Service.
Ou alors, sur le, je sais pas, le site internet du PETR, non? Plutôt,
le site internet on le retrouve sur le site internet du PETR.
Oui.
Il y a des dépliants qui sont disponibles dans les mairies de Bar-des-Cévennes, oui. Cocurès et Saint-Laurent-de-Trèves. On a distribué aussi des flyers avec les horaires dans les boîtes aux lettres des gens à Bédouès-Cocurès, à Saint-Laurent-de-Trèves et à Bar-des-Cévennes. L'information, elle a commencé à circuler. Maintenant, il faut que ça se développe pour pérenniser le service. Parce que si personne ne le prend, nous, on se pose la question s'il y a vraiment un besoin. Et dans ce cas-là, le transporteur, lui, peut aussi se dire, ça ne sert à rien que je fasse ça et il va annuler le service. Donc, ce serait quand même dommage. Ce qu'il faut juste savoir sur le transport à Nantes, c'est que ça ne coûte que 2 euros. Alors, éventuellement, ça peut dire 2 euros pour faire des Cévennes Florac, mais finalement, si on reporte ça au coût d'une voiture, c'est ridicule, puisque pour faire barre des Cévennes Florac, on serait plutôt sur du 10 euros si on se sert des barèmes kilométriques, par exemple.
Oui, parce que rouler avec une voiture de 5 chevaux, c'est 63 centimes du kilomètre, donc... parce qu'en fait, quand on utilise notre voiture, on met juste de l'essence dedans, mais on oublie qu'on paye aussi l'assurance, qu'on a acheté la voiture. Donc, tous ces coûts, puis il y a de l'usure, il faut aller au garage une à deux fois par an. Donc, tous ces coûts, ils se reportent si on roule moins avec sa propre voiture. Voilà.
Et donc, le service, juste à savoir, par contre, parce que le transport à la demande signifie donc qu'il faut le demander. Pour cela, il faut appeler un numéro qui est inscrit sur la brochure, qui est inscrit sur le... du coup à votre mairie ou à France Service. C'est un numéro vert gratuit à la région, donc c'est vous appelez, vous dites simplement d'où vous partez, où vous allez, et puis c'est bon. Donc je vous donne le numéro quand même, c'est le 08 05 608 100. Et okay. Donc voilà, il y a une date limite pour réserver chaque trajet.
On le mettra sur notre site, évidemment, ouais, et voilà, sur le lien d'un, deux, trois climats demain. Oh là, c'est beau.
Dès demain, alors là, quel bravo.
Alors, et donc, du coup, oui. Et donc ce TAD, il se raccroche sur la ligne Lio, Florac, Alès, oui. Ou Hispaniac, Alès, surtout.
Et puis Mende aussi, non ? Non,
Les horaires, ils correspondent moins, quand même.
C'est plus compliqué.
Ouais.
Mais parce qu'il y a une ligne Lio aussi qui vient de Mende à Florac.
Tout à fait, ouais. Donc là, la ligne Hispaniac, Alès, elle est maintenant toute l'année, et pas seulement l'été. Alors l'été, elle est là tous les jours, hein, mais en hiver, on l'a deux jours par semaine, le mardi et le jeudi. C'est quand même important de rappeler qu'elle est là. Ça fait un an maintenant. Juste pour vous donner donc une idée, donc elle part à 9h25 d'Hispaniac et elle repart d'Alès à 12h10. Donc là, ça fait juste une heure de battement, mais aussi un retour à 18h.
Oui. Donc on peut passer la journée à l'Est, du coup.
On peut passer une grosse après-midi à l'Est, oui. Pour aller à un rendez-vous médical, par exemple, faire une course, voilà.
Oui, le mardi et le jeudi.
Le mardi et le jeudi, toute l'année, sauf les jours fériés.
D'accord. Eh bien, super, voilà.
Parfait.
Alors, par contre, juste une petite nuance. L'arrêt d'Hispaniac est aussi à la demande. Malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça. Et celui-là, par contre, il se réserve auprès du transporteur local qui est l'entreprise Boulet. Là aussi, je peux donner le numéro de téléphone.
Oui,
c'est un peu compliqué, mais on trouve les infos après sur la brochure des horaires du Lio, ligne. Oui. La ligne Mende à l'Est, en fait, elle s'appelle
comme ça.
Il y a le numéro de l'entreprise Boulet. Donc, c'est le 04 66. 65 19 88.
Oui.
Donc ça, c'est pour réserver l'arrêt d'Hispaniac.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un site internet dédié au transport Lio. Donc
oui, Lio, ils ont maintenant, la région a un très beau site internet avec les horaires qui sont téléchargeables. On peut acheter les billets sur son application.
Oui, en fait, c'est quand même assez compliqué pour pouvoir se déplacer à la demande ou avec les transports en commun et ou en covoiturage, parce qu'on n'en a pas parlé encore. Donc, je voulais savoir s'il y avait dans les projets portés par le pays, l'intercommunalité, la commune, je ne sais qui, une sorte de dispositif en ligne qui permettrait d'avoir l'ensemble des informations, à la fois pour le covoiturage, pour le transport à demande, pour les transports en commun, etc.
Alors oui, ça vient dans le sens... Alors d'abord, sur l'appli Lio, donc pour l'instant, elle recense que la ligne Lio en soi, donc Florac, Mende, Hispaniac, Alès. Mais à terme, donc là, ils sont en train de la développer pour intégrer le transport à la demande dans l'application et aussi plus tard le covoiturage, puisque c'est la région qui est responsable des mobilités. Et pour eux, le covoiturage, ça fait partie donc de leur mission. Et l'idée, c'est de voir effectivement un gros système en ligne pour intégrer toutes ces solutions-là dans tous les territoires de l'Occitanie.
Je pense qu'on peut insister sur l'application covoiturage qui va sortir donc en 2024.
Oui.
Voilà. et qui sera, enfin vas-y, explique-nous.
Oui, il y a une application, certains en ont déjà entendu parler, c'est un projet qui est dans les cartons depuis quand même quelques années. Donc là, c'est une association de développeurs, dont l'un d'eux habite dans les gorges du Tarn, qui est en train de plancher sur une application de mise en relation de covoiturage, mais pas que. C'est-à-dire que cette appli, c'est pas un blabla carbis, c'est vraiment une appli pour que les gens dans les territoires ruraux essayent de se rencontrer pour mettre en commun des trajets courts et que ce soit facile à trouver. Donc c'est vraiment basé sur la facilité pour trouver un trajet et la facilité pour trouver des gens, même s'ils ne sont pas tout à fait à côté, qui pourraient faire un trajet similaire au nôtre. Donc elle est en cours de développement. Elle va être en phase de test en grandeur nature tout début 2024. Donc je vous tiendrai informé via Radio Bartas.
Mais oui, évidemment.
Pour trouver des testeurs. L'idée du testeur, ça va pas être juste de faire remonter des bugs. Ah oui, bon, ok, mais c'est surtout d'essayer de trouver comment faire une application qui soit utile dans un territoire comme le nôtre. C'est un territoire peu dense, c'est très compliqué de faire du covoit. Comment est-ce qu'on peut favoriser ça le plus possible avec des fonctionnalités qui pourraient être très originales et
oui,
donc l'idée et c'est de faire réfléchir
aussi,
les gens. Simple, ouais. Original, intuitive.
Ouais. Vous allez faire un peu de UX design, quoi.
Non,
l'expérience
on va pas.
Usagée.
Oui, voilà, ça va vraiment être ça. Il va falloir essayer de trouver des groupes de gens par zone, parce que évidemment, si j'en trouve un au Pont de Montvert et à Sainte-Croix-Vallée-Française, ça n'a pas marché. Mais voilà, qu'il y en ait plusieurs dans une même zone qui veulent bien tester et essayer de se dire, ok, alors voilà, ça marche comme ça. Comment est-ce qu'on peut améliorer le système? Qu'est-ce qui nous serait utile, nous, utilisateurs, pour cette appli? Alors, pour une fois qu'on a des développeurs à notre service, allons-y.
Oui, ouais, l'idée à terme, c'est qu'on ait une appli simple. Bon, par exemple, moi, je vais au Pont de Montvert ce matin, je vais au Pont de Montvert et quelqu'un d'autre, instantanément, me répond.
Oui, on pourra planifier quelques jours avance quand même, mais oui.
Ah oui, il faudra.
Non, mais ça pourrait être instantané ou ça pourrait être. Voilà, c'est pas non plus de l'autostop organisé à ce stade-là, mais ça pourra dévier sur ça plus tard, et puis, c'est une application qui va fonctionner pas de porte à porte, mais d'arrêt à arrêt, en fait, ce qui va aider certaines personnes à se débloquer sur le côté vie privée. S'ils ont peur de dire, par exemple, moi, j'habite dans un trou, on est 10 habitants. Si les gens, ils savent que je ne suis pas là de telle date, j'ai peur qu'on vienne nous cambrioler, je ne sais pas quoi. Là, ça va être de point d'arrêt à point d'arrêt. C'est impossible de savoir d'où vient exactement la personne à la base. Donc, il y a ce genre de petites fonctionnalités qui font que ça va peut-être aider certaines personnes à s'y mettre.
Bon, ben super, on attend avec impatience. Mais donc, si vous avez une âme de testeur, il faudra vous signaler, une âme de testeur d'application. Peut-être pour finir, quelques mots, parce qu'il y a quand même plein d'autres choses. Tout à l'heure, Yannick parlait un peu des aides quand on achète un vélo électrique, tout ça. Il y a plein de choses qui ont été recensées par le PETR, toujours dans le même document, là. Donc, voilà, des aides quand on achète son vélo.
Oui, ils aident principalement quand on achète le vélo ou même une voiture électrique. Oui. C'est aussi aidé par la région.
Oui.
Alors on arrive en fin d'une période, donc on va voir comment les aides évoluent en 2024. Oui, mais bon, il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent nettes, au contraire.
Ah. On espère.
Moi-même, je rigole là-bas derrière. Oui. On verra bien. mais oui, il y a des aides de la région, des aides de l'État. Et il peut y avoir aussi des aides de votre employeur, effectivement, avec ce forfait mobilité durable qui donne un forfait aux personnes qui viennent au travail, soit en vélo, soit en covoit. Mais bon, ça, c'est au bon vouloir de l'employeur, bien sûr.
Oui. On trouve toutes ces infos, en tout cas, à la Maison France Service ou sur le site du PETR. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Valérie.
Merci à vous.
Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Climat débat.
Eh bien allez, on enchaîne avec Thomas, donc qui nous a préparé un petit truc.
Et ouais, on passe sur les chroniques techno-sobriété, du coup, comme sur la dernière émission. Donc, en termes de sobriété, niveau mobilité, on peut pas faire énormément de choses non plus. Le mieux, c'est de se passer de voiture. Vraiment, ça, c'est le top. Là, vous aurez une émission carbone réduite à néant. Mais après, c'est l'idéal, c'est d'avoir une voiture quand même qui fait moins de 500 kilos. Quelle que soit la motorisation que vous avez, hein, plus votre voiture est légère, moins vous allez consommer. Ça va réduire votre impact carbone. D'ailleurs, là, c'est un peu dans l'air du temps, les nouvelles voitures qui arrivent sur le marché, là, de plus en plus, on réduit la taille, on réduit le nombre de passagers pour faire le maximum de sobriété. La marche à pied, ça reste évidemment le meilleur en termes de sobriété. Alors après, techno, j'en ai un peu plus à vous proposer. On a des choses intéressantes qui arrivent. Vous avez une société qui s'appelle Aptera qui est en train de fabriquer une voiture électrique qui a un look de vaisseau spatial. Je vous invite à aller voir les photos, elle est vraiment impressionnante. Et surtout, elle a des panneaux solaires qui sont intégrés à la carrosserie. Donc en fait, quand vous stationnez votre voiture, elle se recharge jusqu'à 50 km d'autonomie par jour, juste avec les panneaux solaires intégrés. Il y a aussi, dans les solutions techno, il y a une société qui s'appelle Tiamat, qui est une émanation en fait du CNRS, et qui vient de passer en phase d'industrialisation sur des batteries sodium-ion. Donc ils commercialisent un petit tournevis électrique chez Leroy Merlin actuellement, c'est leur premier produit. Mais ils font des tests sur trottinettes, chariots à élévateur, ce genre de choses. Et en gros, le gros intérêt, c'est que c'est beaucoup moins polluant que le lithium, plus durable et ça se recharge plus vite. Et enfin, la petite dernière, c'est la voiture à compost. Alors celle-ci, c'est une véritable petite révolution.
La voiture à compost.
En fait, elle est équipée d'une nouvelle technologie dite de convecteur temporel. Donc elle roule en utilisant des pots de banane, des sachets plastiques, des moussoirs usagés, bref, tous vos déchets. C'est pas tout, la voiture promet de vous faire voyager dans le temps. Ce qui est pratique, hein, c'est-à-dire que vous pouvez revenir dans le passé pour vous prévenir qu'il faut faire moins de déchets. Mais ce qui crée un paradoxe, c'est-à-dire que si vous créez pas de déchets, vous ne pouvez plus faire rouler votre voiture qui remonte le temps. Vous l'aurez compris, c'est la DeLorean de retour vers le futur.
C'est justement un rêve. Alors moi, j'en ai quand même une petite dernière techno là. Je suis tombé sur un article il y a deux jours. Alors là, c'est du concret en fait. Ça concerne le vélo électrique hybride. C'est une société qui a mis 7 ans pour le mettre au point. Et la grosse nouveauté en fait, c'est, je fais un peu le parallèle avec la chronique de Manu sur les batteries. En fait, c'est que c'est un vélo électrique mais qui a une toute petite batterie de 600 grammes qui se recharge en une heure, mais la grosse innovation c'est qu'il y a des super condensateurs donc qui n'utilisent pas de terres rares, pas de lithium, hein. C'est des condensateurs qui emmagasinent l'énergie qui vient de toutes les descentes, les freinages, on recharge les condensateurs en roulant et du coup ce vélo il peut même fonctionner sans la batterie. Voilà, il est commercialisé, donc c'est du concret, à partir du printemps 2024. Voilà, bon, c'est vrai qu'il coûte 3 400 €, 99 je crois, mais bon. Voilà, mais c'est, je pense, le début, peut-être, d'un autre type de vélo. Voilà.
C'est justement un rêve. Alors moi je voulais vous proposer quelques lectures parce que donc en préparant cette émission je me suis documenté comme vous l'avez constaté sur les métaux rares, les terres rares et en fait il y a une BD qui s'appelle Prométhium du nom d'un élément chimique classé dans les terres rares et qui est une BD qui a été donc scénarisée par Séverine Delacroix et illustrée par Jérôme Lavoine et qui s'inspire largement du livre du journaliste Guillaume Pitron La guerre des métaux rares, qui a donné le lieu à un reportage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. En tout cas, voilà, très bonne BD. Et toujours dans la même veine, si je puis dire, parce qu'on parle de mines, il y a Kisanga, qui est un polar d'Emmanuel Grand, qui a été primé à Landerneau en 2018, et qui raconte un peu l'histoire d'une société française qui s'installe au Congo pour exploiter sur un marché du siècle du lithium et du cuivre. Donc voilà, de bonnes lectures. Et puis pour finir, bon là c'est plutôt sur un aspect sociologique, un ouvrage qui a été écrit par André Gorz. Bon, c'est un truc qui est un peu vieux, hein, ça date des années 73, mais qui est édité là, récemment et qui vient donc de faire un petit fascicule de 28 pages. Et ça s'appelle « L'idéologie sociale de la bagnole ». Très intéressant. Donc en fait, André Gors questionne la voiture en disant que le problème n'est pas forcément une question d'engin ou de mobilité, mais bien un enjeu culturel et essentiellement urbain. Et donc ça fait questionner l'usage de la voiture et en quoi la dépendance, on pourrait s'en libérer.
Est-ce que nous aimons votre...
C'est justement intéressant.
Eh bien voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Alors merci à nos chers invités. Hein, voilà, on va se retrouver nous en direct donc le mois prochain.
Le 21 décembre.
Ah bah tu sais, oui, le 21.
On avait noté dans la préparation, nous.
Oui. Le thème sera l'alimentation.
Voilà. Avec le réveillon.
Oui, c'est pour ça. On s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Et cette émission, elle est donc rediffusée dimanche 3 décembre à 14h. Jeudi 7 décembre à 19h. Et il m'en manque une, mais non. Je sais plus. Bon, ben voilà. Vous pouvez aussi, évidemment, aller sur le site internet. Vous trouverez vraiment tous les liens, les numéros de téléphone dont il a été question. Vous pourrez réécouter l'émission plusieurs fois si vous voulez. Voilà. Et puis, ben merci à tous et à toutes. Et
merci. Moi, beaucoup.
Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.
1, 2, 3, climat. 1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Force à vous.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107 FM.
Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. Drifted by mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Bangs, birthday party, cheesecake, jelly bean, food.
as we know it. It's the end of the world as we know it. Not